بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous concentrer ce soir pendant 25 minutes inshallah pour essayer de comprendre et de connaître quelques vertus de la sourate Al-Fatiha. La sourate que nous lisons, mashallah, le plus souvent dans une journée et durant toute notre vie et qui mérite amplement que nous nous attardions un petit peu pour essayer de comprendre la puissance de ce verset et la profondeur de chaque mot qu'Allah Rabbul Izza a révélé dans Al-Fatiha. Hier donc on avait vu le nom, les différents noms de Al-Fatiha, avec quelques vertus. On avait rappelé que Ibn Kathir rahimahullah a compté qu'il y a 113 lettres exactement dans la sourate Al-Fatiha, et cette sourate elle est composée de 25 mots. Parmi les vertus d'Al-Fatiha, on en a retenu trois. Premièrement, un hadith qui est rapporté par Imam Malik rahimahullah fil Muwatta. Le hadith stipule que notre prophète alayhi salat wa salam, le hadith est rapporté par Abu Sa'id Mawla Amir ibn Kurayz, anna Nabi alayhi salat wa salam a appelé Ubay ibn Ka'b. Bon, Ubay ibn Ka'b était un sahaba connu, et Ubay ibn Ka'b était en train de prier dans la masjid, on comprend la masjid Nabawi. Falamma faragha min salatihi, lorsqu'il a complété la salat, mon prophète alayhi salat wa salam a mis sa main sur ma main. Il dit, mon prophète a mis sa main bénie sur ma main, et il voulait donc sortir de la masjid. Il a dit que, oh Ubay, je vais t'informer, je vais t'enseigner surah ma unzila fi tawrati wala fi l'injil wala fi l'furqan mithla. Oh Ubay, je vais t'enseigner une surah, un chapitre du Coran qui n'a pas son équivalent, dont l'équivalent n'a pas été révélé ni dans la Torah, ni dans l'injil, ni dans le Coran. فقال أبي إذن أبي بن كعب رضي الله عنه était enthousiaste à l'idée d'apprendre cette sourate, et à la fin donc il devait prier. À la fin, Ubay revoit le prophète عليه الصلاة والسلام, dit au prophète d'Allah, la sourate que tu m'as promis, il veut dire n'oublie pas de m'enseigner à Rasulallah cette fameuse sourate. فقال عليه الصلاة والسلام كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة. أبي, quelle est donc cette sourate que tu lis quand tu commences la salat? فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين, j'ai lu الحمد لله رب العالمين, et le prophète عليه الصلاة والسلام dit هي هذه السورة, c'est bien cette sourate, وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت, c'est les sept versets répétés qu'Allah رب العزة m'a accordé. Donc ce que nous retenons de ce hadith, c'est que c'est un chapitre, une sourate qui est exceptionnelle, qui n'a pas son équivalent dans ni le Taurat, ni le Zabur, ni le Injil, et dans le Coran même, aucune sourate, aucun chapitre n'est équivalent à la sourate Al-Fatiha. Donc prise de conscience sur la puissance et l'importance de ce verset. Ainsi donc, pour rejoindre ce qu'on avait dit hier, quand vous voulez vous soigner ou soigner vos proches qui sont malades, en lisant Surat al-Fatiha, il faut vraiment prendre conscience que c'est un chapitre extrêmement puissant du Coran. Et donc quand vous le lisez, on le lit avec beaucoup de respect et avec cette conviction, je répète la conviction que, sachant que c'est la sourate la plus puissante du Coran, assurément, Allah Azza wa Jal va exaucer ma demande et va accorder la santé à la personne à qui cette sourate est destinée dans ma lecture. Ça c'est donc une des quatre, on en a retenu quatre, des vertus de Al-Fatiha. Deuxièmement, on a un hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Quel était le surnom de Ibn Abbas? Hablul Umma. Ibn Abbas avait reçu... On avait dit qu'on ne sort pas du sujet, mais quand on parle d'Ibn Abbas, c'est synonyme tafsir. C'est le plus grand, c'est le mufassir par excellence. D'accord? Dans la science du hadith, qui est le muhadith parmi les sahaba, je veux dire, par excellence? Si quelqu'un veut bien nous donner la réponse, même par écrit. J'ai dit donc qu'en tafsir, le référent parmi les sahaba, c'est Ibn Abbas, radiallahu anhuma. D'accord? Le temps que vous réfléchissiez, qui est le muhadith de référence en hadith, Ibn Abbas radiallahu anhu avait reçu le doua du prophète alayhi salatu wa salam, Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ilma ta'wil. Ya Allah, accorde-lui la compréhension de la religion, c'est-à-dire une compréhension globale, une compréhension totale, la capacité de comprendre les textes et d'en extraire le sens pour comprendre la religion, Allahumma faqqihu fi din wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil, et enseigne-le le ta'wil. Wa at-ta'wil huwa at-tafsir. Le terme ta'wil, c'est un synonyme de tafsir. Et donc Allah a ouvert le cœur d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma et lui a accordé la compréhension du tafsir. Hada. Juste pour rappel, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma est décédé à Taif et bi'idhnillahi ta'ala wa karamihi wa fadlihi, il y a 2 ans. Avant la crise Covid et avant que le monde ne change, on va dire, on a eu l'occasion d'aller accomplir la Umrah. Donc c'était en janvier 2019. Et bi'idhnillah, on a visité la ville de Taif et on a pu voir la maison d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma et l'endroit où il est enterré. Hada. Donc Hablul Umma Ibn Abbas, et le référent, celui qui a rapporté le plus de hadith, c'est bien sûr Abu Huraira radiyallahu anhu. Hada. Donc hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu ma bayna, alors je dis en français, j'étais avec le prophète alayhi salat, non pas j'étais, il rapporte que alors que, il faut être très précis dans les termes, alors que le prophète alayhi salat wa salam était en compagnie de l'ange Jibril. Waouh, subhanallah, quelle assemblée. On a le prophète d'Allah et on a l'ange Jibril alayhi salam. Ils ont entendu donc un bruit qui vient d'en haut. Fawqahu, farafa Jibril basarahu ila sama, et Jibril a scruté, il a regardé le ciel et il a donné l'information au prophète alayhi salat wa salam. Hadha babun qad futiha min as-sama ma futiha qat. O Muhammad, sache que ce qui vient de se passer, le bruit que nous venons d'entendre, c'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir, et c'est la première fois dans l'histoire que cette porte du ciel s'ouvre. Fanazala minhu malak, et un ange est descendu donc de cette porte. Fa atan nabi alayhi salat wa salam, il est venu voir le prophète, dit que ô prophète d'Allah, je t'annonce la bonne nouvelle de lumière qu'Allah rabbul izza t'accorde, c'est-à-dire deux révélations qu'Allah azza wa jalla t'accorde et qui n'a accordé à personne avant toi. Comprenons par le terme personne avant toi aucun prophète avant toi n'a reçu des versets aussi puissants. Alors là, ça nous donne vraiment envie de connaître et de comprendre quels sont ces deux versets. Fatihatul Kitab wa Khawatim Suratil Baqara. Le Fatihatul Kitab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et les derniers versets de la Surat Al-Baqara, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, savants disent que ça démarre depuis l'illahi ma fis samawati wa ma fil ard, et justement les derniers versets d'Al-Baqara sont également des versets très puissants pour se guérir quand quelqu'un est malade, quel que soit le problème. Naam. Donc ça fait deux vertus de Al-Fatiha qu'on a vu. Troisièmement, là on est un peu plus du côté du fiqh, de la jurisprudence. Et on a justement le plus grand narrateur de hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salat wa salam قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, sachez que celui qui accomplit une salah dans laquelle il ne lit pas ام القران, c'est-à-dire ne lit pas al-Fatiha, cette salah et khidaj. Alors là, le terme khidaj, il y a divergence d'opinion. Certains savants sont d'avis que cette salah ne compte pas, et c'est l'avis de la majorité des a'imma. Et on a eu l'occasion hier d'aborder, d'effleurer légèrement la jurisprudence en rappelant que chez Imam Malik, chez Imam Shafi'i et chez Imam Ahmad ibn Hanbal, la lecture d'Al-Fatiha est shartun fi sihhati as-salah, est une condition pour que chaque rakat soit validé. Alors que chez Abu Hanifa, c'est la lecture de 3 versets du Coran qui est obligatoire. Donc ceux qui sont d'avis que khidaj, voilà, donc le premier avis, c'est que khidaj, ça veut dire impératif obligatoire. Donc à partir de là, nous comprenons la déduction. Et d'autres savants sont d'avis que le mot khidaj veut dire ghair kamil, n'est pas complète. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Et le terme khidaj, j'avais dit pas de parenthèse, mais on peut se permettre 3. En 25 minutes, c'est ma deuxième. Le terme khidaj a été utilisé également par, si je ne me trompe pas, Aïcha radiallahu anha. Si je venais vous demander en mode quiz, quelle est donc cette femme parmi les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, qui a rapporté le plus de hadith et qui était la plus grande enseignante, celle qui avait le plus de connaissances bien sûr, mais qui est également la plus grande muallima, la plus grande enseignante de la religion, c'est bien sûr Aïcha radiallahu anha, qui a vécu auprès du prophète alayhi salat wa salam et qui a enseigné et qui a appris beaucoup, beaucoup de choses concernant la jurisprudence entre autres, et qui l'a enseigné aux sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc, ah oui, Aïcha radiallahu anha avait utilisé le terme khidaj également pour quelque chose d'autre, pour la personne qui, pour une femme qui accepte la demande en mariage d'un prétendant et qui se marie sans l'accord de son wali, sans l'accord de son père ou de son grand-père, ce qu'on appelle le wali en arabe, le tuteur. Et selon Aïcha radhiallahu anha, ce nikah, ce mariage est khidaj. Et là, les savants sont ceux qui utilisent le terme khidaj comme étant qui n'est pas valable. C'est-à-dire que le nikah sans wali ne compte pas. Et c'est l'avis de la majorité des savants, entre autres Al-Shafi'i wa Malik wa Imam Ahmad. Et chez Abu Hanifa rahimahullah, le mariage compte. Non. Donc ça, c'était juste latifa concernant ce terme. Donc, troisième vertu d'Al-Fatiha, c'est, les savants disent, le pilier du pilier de l'islam. Comprenez la portée de ces termes. La salat, c'est imaduddin, d'accord? La salat, c'est le pilier de la religion. C'est l'action la plus importante et le lien le plus fort avec Allah, l'action la plus répétée de la journée, de la vie d'un croyant. Et dans cette salat, ce qui est le pilier de la salat, sans laquelle la lecture ne compte pas, selon ce hadith, c'est al-fatiha. Donc, comprenez la portée de l'Al-Fatiha pour l'islam de façon générale. Ça fait trois. Quatrième, et on s'arrêtera avec ces quatre vertus, on a le hadith qui est très connu, hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, de lequel le prophète, alayhi salat wa salam, nous rapporte qu'Allah azzawajal a dit. Comment ça s'appelle ce hadith? Ce genre, ce type de hadith, lorsque c'est Allah Azzawajal qui s'adresse. Ce sont les termes de notre Seigneur Azzawajal, mais ce n'est pas considéré comme Qur'an. On appelle les hadiths Qudsi. Allah ibarik fikum. MashaAllah, hadith Qudsi. Et donc dans ce hadith Qudsi, قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. Allah رب العزيز, notre Seigneur, nous informe qu'il a dit, j'ai divisé la salat entre moi et mes serviteurs, donc en deux parties. وَلِيَعَبْدِي مَا سَأَلَ. Le hadith est connu, c'est un grand classique des hadiths d'Al-Fatiha. Et j'accorde à mon serviteur ce qu'il me demande. Ça nous permet déjà d'anticiper la compréhension de l'Al-Fatiha et de réaliser que quand je lis Al-Fatiha, ce n'est pas juste quelque chose que je récite pour que ma salat soit valable, comme on a dit tout à l'heure. Il y a dans Al-Fatiha une partie, un verset, qui est en fait une doua. Et c'est une invocation que nous faisons, nous demandons donc à notre Seigneur dans la meilleure des positions, dans la position de la salat. Et donc, Allah Rabbul Izzah annonce que Wali Abdi ma sa'al, j'accorde à mon serviteur ce qu'il me demande. En fait, on demande à Allah Rabbul Izzah la guider. On verra ça dans le tafsir. Mais ça me démange, je vous le dis tout de suite. D'accord? La guider, parce qu'on ne sait pas si on meurt demain ou après-demain, ou si l'un d'entre vous arrive à disparaître. Au moins, vous aurez prié la prochaine salat avec cette conviction que quand je prie, je demande à Allah Rabbul Izzah quelque chose. Je lui demande quoi? La guider, al-thabat, l'istiqama wal-mautu al-tawhid, de rester dans le droit chemin jusqu'à la mort sur le tawhid. Et je demande à Allah Rabbul Izzah la protection contre ad-dalal, contre l'égarement. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal atteste que wali abdi ma sa'al, que j'accorde à mon serviteur ce qu'il me demande. Et donc notre Rabb Azza wa Jal nous dit que wa idha qala al-abdu, lorsque le serviteur lit الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. Allah رب العزة répond à ce serviteur. Allah رب العزة répond que mon serviteur a fait mes louanges, mes éloges. Et lorsqu'on lit Ar-Rahman Ar-Rahim, on cite les deux noms d'Allah عز وجل. Allah رب العزة répond أثنى علي عبدي, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque, وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, lorsqu'on dit maître du jour de la rétribution, Allah Rabbul Izza, il répond مَجَّدَنِي عَبْدِي, et dans certaines versions فَوَضَ إِلَيْ عَبْدِي, mon serviteur s'en est remis à moi, mon serviteur a proclamé ma puissance et ma grandeur. Et lorsque فَإِذَا قَالَ, lorsqu'il lit, c'est-à-dire lorsque je lis, lorsque Ibrahim lit, lorsque Abdul Malik va lire, lorsque Faisal va lire, lorsque chacun d'entre nous, Luqman et les messieurs, les dames, à toute époque, depuis An-Nabi alayhi salatu wa salam jusqu'au Qiyama, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier croyant de sa Umma, lorsque nous lisons Al-Fatiha, nous avons cette réponse qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, lorsque وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ jusqu'à وَلَا الضَّالِينَ, jusqu'à la fin, c'est-à-dire cette dernière partie qui est constituée des invocations, Allah Rabbul Izza répond هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, et ça c'est pour mon serviteur, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il a demandé, et il n'y a pas de demande plus importante et plus, on va dire, et plus puissante que la demande de la guider et la protection contre l'égarement. Et ça rejoint le verset فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, hein, le sens du verset, celui qui a pu se protéger du feu de l'enfer et qui a accès au Jannah, فَقَدْ فَازَ, c'est cette personne qui réellement a réussi. Ainsi donc, quand on demande la guider, qu'Allah nous garde dans l'islam et nous donne la guider, la hidayah, guide nos pas jour après jour pour prendre les bonnes décisions, pour qu'on se rapproche de lui, que notre iman augmente et que notre islam se raffermisse jusqu'à ce que nous quittions ce monde sur le tawhid et qu'Allah soit satisfait de nous. Donc le ma'na al-istiqama, c'est le dua, la demande la plus importante du croyant, et hikmatullah, la sagesse d'Allah et sa clémence a voulu que nous le demandions, subhanallah, dans chaque unité de prière, ce qui nous ramène, si on compte avec le witr, si je ne dis pas de bêtises, à peu près à une vingtaine de lectures d'Al-Fatiha au minimum par jour. Donc au moins 20 fois je demande à Allah Azza wa Jal de me guider vers le droit chemin, et je demande protection contre l'égarement. Voilà donc 4 vertus concernant Al-Fatiha. Là déjà, avec ce dernier hadith, le hadith Qudsi, ça nous donne une approche, peut-être que vous l'aviez, peut-être que vous ne l'aviez pas, cette compréhension que à chaque fois que je vais lire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fatiha de la Salah, il y a une réponse qui vient de mon Seigneur. Maintenant une personne se pose la question, mais qu'en est-il si mashallah il y a 3 milliards de personnes qui lisent en même temps? Ne vous inquiétez pas, Allah est bien au-dessus de notre capacité à comprendre, à cogiter, à déduire. Allah Rabbul Izzah a informé que c'est sa réponse lorsque le serviteur lit Al-Fatiha, et c'est ce qu'Allah Rabbul Izzah, c'est de cette façon qu'il agit, et nous devons être, donc nous devons lire Al-Fatiha avec en pleine conscience et avec conviction du sens des versets, et c'est le but de l'étude des versets d'Al-Fatiha. C'est ma troisième parenthèse, la dernière. Vous savez, une des Fatiha qui m'a le plus marqué dans ma vie, je veux dire qu'en écoutant les imams, de nos jours, mashallah, il y en a des aïmas entre Mu'aqili et mashallah Salah al-Boudir et bien d'autres, hein, Al-Juhani, les jeunes aïmas, je ne connais pas trop leur nom. Et les grands classiques, hein, Shuraim, Sudeis, bien sûr. Une des lectures d'Al-Fatiha qui m'a le plus marqué et que je continue à écouter de temps en temps, malheureusement, l'imam est décédé, mais sur YouTube, vous pouvez écrire son nom et je vais vous donner son nom. C'est Ajib, parce que ce imam, lorsqu'il dit Alhamdou, ressent qu'il y a une profondeur et il y a une puissance dans sa lecture, et ça ne peut pas vous laisser insensible. Ce imam, il s'appelle Cheikh Salih As-Subail. Cheikh Salih As-Subail. Vous pouvez ouvrir une fenêtre en même temps que vous écoutez et vous tapez sur YouTube. C'est particulier, hein, je vous assure. Vous allez être un peu interpellé, un peu choqué par la façon qu'il lit. Tous les enregistrements qu'il y a de Cheikh Soubeil, c'est un âge bien avancé. Il est décédé il y a une dizaine d'années. C'était le Amir des A'imma. C'était le responsable des imams de Makkah et de Madina, quelqu'un de très âgé, quelqu'un, subhanallah, d'extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc personnellement en étant umra. Il m'avait reçu, on avait discuté, j'étais très jeune et c'est une personnalité qui m'a marqué. Et je vous envoyais son nom hein, dans le groupe Inch'Allah, Salih, d'accord, As-Soubel, je pense que vous le tapez en arabe et vous avez ces vidéos. C'est particulier, c'est une lecture qui est vraiment vraiment différente. Ne cherchez pas la voix mélodieuse, hein, c'est autre chose, mais c'est d'une puissance, c'est tout simplement magnifique. Alors, j'ai mis un chronomètre pour 25 minutes, pour qu'on arrête à 25 minutes, il nous reste 4 minutes. On va voir al-isti'ada. Al-isti'ada, c'est le fait de dire a'oudou billahi minash shaitan rajim. Alors, Ibn Kathir rahimahullah explique, ça veut dire quoi? A'oudou billahi minash shaitan rajim. Ay, astajiru, je demande protection auprès de mon Seigneur Azza wa Jal contre shaitan. Ay, yadurrani, pour qu'il ne me fasse pas de mal, pour qu'il ne me déroute pas hein, du droit chemin, et qu'il ne me perturbe pas dans ma religion, ou aoudouniaya, ou même dans ma vie de tous les jours, et qu'il ne me détourne pas, pour qu'il ne me détourne pas des actions que je dois accomplir, ou alors, et qu'il n'arrive pas à me faire accomplir, à me faire chuter dans ittiba'ul hawa, de le fait de suivre ses pas et de suivre le nafs, ala fi'li ma nuhitu anhu, et d'accomplir les péchés. Donc c'est une belle définition de Ibn Kathir. Oui, c'est pas une citation, c'est Ibn Kathir qui définit. Je reprends, je demande protection à mon Seigneur auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaytan le maudit, afin qu'il ne me détourne pas du droit chemin, qu'il ne me perturbe pas dans ma religion, qu'il ne m'empêche pas d'accomplir les bonnes actions, et qu'il ne m'emmène pas, tout simplement, qu'il ne m'emmène pas vers les péchés. Et on comprend bien que quand on demande la protection contre Shaitan, la première chose à laquelle on pense, c'est protection contre les waswasa, hein, les insufflations qui ne m'amènent pas vers les fitnas, vers le haram, ainsi de suite. Mais le travail de Shaitan n'est pas uniquement de vous amener vers les péchés. Il le fait, d'accord? Mais pour certaines personnes qui ont un niveau de pratique qui est quand même, on va dire, un peu plus de pratique, tout simplement, Shaitan veut en priorité les empêcher d'accomplir des bonnes actions. D'accord? Et il y a différentes façons, on n'ouvre pas la quatrième parenthèse, mais entre autres, le but de l'isti'ada, c'est que Shaitan ne me détourne pas des bonnes actions. Je vais vous citer là, c'est la parenthèse en plus, hein, d'accord? Il y a des fois où, je pense que c'est arrivé à tout le monde, hein, vous avez envie de lire le Coran, vous prenez votre mushaf, vous vous installez, vous êtes en état d'ablution, vous êtes parfumé, d'accord, mashallah, vous avez envie de bien faire, vous posez votre mushaf, votre Coran, d'accord, comme j'ai dit hier, on ne dit pas le Coran, on dit le mushaf quand il s'agit du livret, vous allez lire et là tout d'un coup, vous voyez une petite tache ou quelque chose qui est mal mis sur votre bureau, et vous dites que non, il faut que je me mette dans des conditions impeccables. Et là, vous prenez votre chiffon, votre produit, please, ou autre chose, et vous commencez à nettoyer la tâche. Puis vous voyez un peu plus loin, ah ben tiens, ça, je vais bien redresser ces lits parce que voilà, la symétrie pour moi c'est important, hein, c'est très important, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'en finalité, vous avez perdu beaucoup de temps et vous n'avez pas le Coran. Et de la même façon pour beaucoup de choses. Alors, ça, c'est là, on a affaire à un shaitan qui est soft là quand même, d'accord, qui vous détourne, mais légèrement. On a quand même la possibilité de se rattraper. Donc, pour résumer, Shaitan va essayer de détourner le croyant de l'accomplissement des bonnes actions, mais également, bien sûr, de l'induire en erreur et de le faire chuter vers les péchés. A'oud billahi mina shaitan rajim. Ibn Kathir, il pose les questions, il les répond, il dit pourquoi demander protection contre Shaitan? Tout simplement parce que Shaitan, tout simplement parce que notre Seigneur, avant tout, nous a dit, ya bani Adam, la yaftinannakum Shaitan kama akhraj abawaykum min al-jannah. Allah Rabbul Izzah s'adresse à bani Adam, au fils de Adam alayhi salam. Le sens du verset, faites attention que le diable ne vous détourne pas, j'ai pas la traduction, mais ne vous détourne pas du droit chemin, ne vous perturbe pas comme il l'a fait avec à Adam, votre père. Donc on comprend que la mission de Shaitan, c'est, et c'est là qu'Ibn Kathir enchaîne, وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. Il enchaîne avec le verset de lequel Allah Rabbul Izzah rappelle aux croyants que Shaitan est votre pire ennemi. Et donc vous devez le traiter en ennemi. Et ne pas oublier que lorsqu'Allah Azzawajal a créé Adam alayhi salam et que Shaitan a refusé de se prosterner, l'histoire très connue, ce sont des versets du Coran, Shaitan a demandé à Allah Azzawajal de lui accorder un délai. Quand il a été chassé du ciel, il a demandé à Allah Azzawajal un délai et Allah lui a accordé ce délai. Délai dans lequel il a promis à Allah, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, qu'il va embellir. Non. Qu'il va embellir la vie de ce monde. Alors, j'ai un petit souci de micro, excusez-moi. C'est bon. Il va embellir pour l'être humain la vie de ce monde et le perturber par les choses qui l'entourent et essayer de les détourner au maximum du droit chemin. Donc, ça c'est un programme. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en ligne. Oui, certains qui étaient présents, oui, je les vois, au programme de samedi dernier, on avait expliqué qu'est-ce qui me permet à moi de résister aux tentations de Shaitan et de comprendre que je ne dois pas le suivre et l'obéir, c'est l'histoire de la désobéissance. C'est important de le comprendre. Shaitan a, entre guillemets, il n'a pas défié Allah Azza wa Jal, abadan, c'est ce qu'Allah avait prévu de son destin, de Iblis, mais Shaitan il s'est fait la promesse de détourner l'homme du droit chemin. Et lorsque nous lisons les versets qui décrivent la situation, lorsque tout est terminé, lorsque les gens du paradis sont de le Jannah, Allahumma ja'alna minhum, et que les gens de l'enfer sont de l'enfer, Allahumma ja'alna minan nar, Shaitan va s'adresser aux gens qui sont dans l'enfer, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق, sachez aux personnes qui sont dans l'enfer qu'Allah vous avait fait une promesse, mais moi aussi je vous ai fait une promesse, ووعدتكم فأخلفتكم, mais moi ma promesse elle était mensongère et je n'avais aucun pouvoir sur vous, je n'avais aucune emprise sur vous, je n'ai fait que إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, sauf que je vous ai invité, vous m'avez écouté. Et donc, ne me faites pas de reproches, vous êtes vous-même les responsables de votre perte. Et ce verset nous fait comprendre que l'objectif de Shaitan est de nous détourner du droit chemin et de nous amener avec lui dans le Jahannam, car il nous protège. Et lorsque les gens seront avec lui dans le Jahannam, Shaitan va les désavouer totalement, il va dire que vous aviez eu tort de me suivre. Donc ça nous permet de comprendre pourquoi, A'udhu billahi minash shaitani rajim, parce que nous avons là celui qui s'est juré de détourner chaque être humain du droit chemin. Naam. Et avant la lecture du Coran, Allah Rabbul Izzah nous demande, فَإِذَا قْرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, de lire l'isti'adha, afin que Shaitan ne nous perturbe pas dans la lecture du Coran. Ibn Kathir dit, لِدَفْعِ, afin d'éloigner al-waswasa, les insufflations du diable dans la lecture du Coran. Et la bonne façon de lire A'udhu minash shaitani rajim, c'est la formule que je viens de dire. Et il y a une autre formule qui est plus complète, on peut varier de temps en temps, c'est A'udhu billahi sami'in alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. Dernier point, puis on va clôturer. Notre prophète alayhi salat wa salam nous enseignait également l'utilisation de al-isti'adha dans d'autres circonstances en dehors de la lecture du Coran. Notre prophète alayhi salat wa salam nous enseignait que la lecture de al-isti'adha permet aux croyants de retrouver ses esprits lorsqu'il a tendance à s'emporter, à se mettre en colère. Le prophète avait une fois deux sahaba en train de discuter, le ton est monté, ils se querellaient. Et le prophète alayhi salat a dit que inni la'alamu shay'an law qalahu dhahaba anhu ma yajid. Il y a une formule, si il le lisait, ben cette colère-là, elle partirait immédiatement. Et c'est a'oudhu billahi minash shaitan. Ainsi donc, quand vous êtes face à une tentation, fitna, d'accord, ça peut être dans la rue, concernant le regard, concernant une musique, une chanson qu'on n'a pas envie d'écouter mais qui est diffusée, ça concerne n'importe quel appel vers le mal, d'accord. Ça peut être également un moment où on a tendance à s'emporter, il y a une situation qui nous agace, n'importe quelle situation au risque de commettre un péché ou de se mettre en colère, parce que la colère vient de Shaitan également. La lecture de A'udhu billahi minash shaitani rajim, une fois, deux fois, trois fois, le nombre de fois qu'on veut, bi'idhnillah, ça nous éloigne et nous protège des insufflations de Shaitan. On va s'arrêter à la pour ce soir, Inch'Allah, comme convenu, on s'arrête à 25 minutes pour que ce ne soit pas trop long pour tout le monde. Et demain, on va, Inch'Allah, on va enchaîner avec Al-Basmala, la lecture de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et démarrer les premiers versets de Al-Fatiha. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte ce majlis et que nos foyers, nos maisons soient illuminés par les paroles que nous avons lues, Inch'Allah, et que les malaïkas rapportent les noms de chaque personne présente auprès d'Allah Rabbul Izzah, et que nos péchés à la fin de cette assemblée sont pardonnés et qu'ils soient pardonnés et qu'ils soient transformés en bonnes actions. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.